Journée spéciale sur France Culture aujourd'hui jusqu'à 19h. Mais nous retrouvons tout de suite Olivia Gesbert.
J'ai même envie de dire « et nous recevons » parce qu'en fait, on va aussi poursuivre ou s'inscrire dans cette journée spéciale que vous avez évoquée, Anne, puisque à partir de 12h55, nous recevons la sociologue Gisèle Sapiro et l'historien des médias Christian Delporte pour explorer cette place des intellectuels dans l'espace médiatique. Mais d'abord, dans un premier temps, on va entendre la parole d'un romancier à la plume fleurie, le Martiniquais Patrick Chamoiseau, qui est notre invité. France Culture, il est midi. On commence avec les titres du journal que vous développerez dans une demi-heure. Antoine Marette, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Alep attend toujours l'aide humanitaire pour ses 250 000 habitants. Mais les camions chargés de nourriture sont toujours bloqués aux abords de la frontière entre la Syrie et la Turquie. Les Nations Unies espéraient profiter de la trêve pour faire entrer ces 40 camions dans les quartiers est de la ville, toujours assiégés par le régime. Pour l'instant, aucun mouvement n'a été enregistré. Dessiner les contours de l'Europe post-Brexit, voie vaste programme pour les 27 réunis aujourd'hui à Bratislava. Et dans ce sommet sans le Royaume-Uni, ce sont la sécurité et la défense européenne qui devraient dominer les débats. Dans l'actualité française, les réactions se multiplient en Corse après les condamnations dans l'affaire Cisco. Les 5 prévenus écopent de 6 mois de prison avec sursis à 2 ans ferme. Il aura fallu 12 heures au tribunal correctionnel pour trancher. Pour le maire de Cisco, Jean-Pierre Vivoni, la page est désormais tournée. À midi et demi, notre invité sera le spécialiste du Front National, Nicolas Lebourg. Il est l'auteur d'un essai intitulé « Lettres aux Français » qui croit que 5 ans d'extrême droite remettraient la France debout.
Bonjour à tous. Comme un vendredi, on se prépare à laisser la parole aux idées, puis à s'absenter. Pensez, à partir de 12h55, nous interrogerons la place des intellectuels dans l'espace médiatique. Quelle tribune, quelle fonction, quel pouvoir? Avec l'historien des médias Christian Delporte et la sociologue Gisèle Sapiro, tous deux ont participé à la grande histoire de la vie intellectuelle en France qui paraît cette semaine au seuil. Un seul hashtag, France Idées. Ressentir jusqu'à midi et demi, le romancier Patrick Chamoiseau est notre invité. Il publie en cette rentrée la matière de l'absence, un très beau roman sur le manque, les souvenirs, la famille, la colonisation et le peuple antillais. La Grande Table se tweet, se like et s'écoute en direct ou sur franceculture.fr. Bienvenue.
La Grande Table. Olivia Gesbert.
Héritier de la négritude et de l'antianité, défenseur de la créolité, de la langue, de toutes les langues, il arpente, il laboure le champ lexical à l'infini. Prix Goncourt pour Texaco en 93, auteur entre autres de Solibo le Magnifique, d'une enfance créole, des 9 consciences du mal fini ou encore d'Hyperion victimaire. Patrick Chamoiseau est avec nous ce midi, bonjour.
Bonjour.
Et vous êtes ici pour La matière de l'absence, un roman qui vient de paraître au seuil. Quand je vous regarde, Patrick Chamoiseau, je vois un volcan en sommeil, mais qui à tout moment pourrait entrer en éruption. Je plaisante à peine parce que le cœur de votre roman bat au rythme d'un volcan. Hein. Impact, éjecta et cratère.
Oui, je pense que l'image est intéressante parce que lorsqu'on perd sa mère, la mère qui fait partie de soi, qui a constitué presque le tissu de l'enfance, qui a tellement tissé de souvenirs, qui a accompagné les cauchemars, les réveils, les endormissements, qui vous a nourri. Quand on la perd, c'est véritablement un impact relativement colossal. Et même si c'est, par certains aspects, ça peut sembler être une délivrance, hein, elle échappe à la souffrance, à plein de choses, il n'en reste pas moins que ce qui reste, donc mes frères et moi, et puis moi-même, on se retrouve avec une sensibilité complètement modifiée, exacerbée, qui vous oblige à récapituler à la fois tout ce que vous êtes et tout ce que vous allez devenir désormais.
Et dans « Fort comme la mort », si ma mémoire est bonne, hein, Maupassant dit aussi que la perte de la mère, c'est vraiment aussi la perte d'une part d'enfance. C'est-à-dire que cette femme, la mère, c'est elle qui nous a connus tout petits, avant même qu'on ne parle, avant même qu'on ne pense oui, presque. Oui. Et c'est aussi une part de nous, du coup, qui s'en va.
Hein. Du coup, et en plus, tant qu'elle est là, on peut encore être l'enfant. Mais quand elle n'est plus là, on ne reste, il ne nous reste que nous-mêmes, ce qu'on est devenu, avec nos rigidités d'adultes. Peut-être qu'on perd une part de poésie, peut-être qu'on perd le dernier bout d'innocence. Enfin, on perd beaucoup de choses. Et en même temps, on retrouve beaucoup, beaucoup de choses. Donc, c'est comme si un œuf achevait de se rompre et que l'individu ou la personne ou une conscience, une pensée, une vie, une expérience pouvait se libérer de la manière la plus complète possible et se parachever ainsi.
Et c'est pour ça que quelque part vous avez peut-être entrepris de dérouler le fil de vos souvenirs à l'évocation de cette grande figure, l'absente, votre mère, Maninotte, dans un dialogue permanent avec votre sœur, la baronne, dans ce roman. Sa disparition commence avec l'usure de sa mémoire, écrivez-vous à propos de votre mère et à propos de cet Alzheimer qu'il a possédé à un moment. Le négrillon et vous lui restituez en partie cette mémoire usée.
Oui, c'est-à-dire qu'on ne se souviens pas de tout, mais c'était assez particulier dans la perte de la mémoire de cette maladie. Les souvenirs qui restent sont souvent les plus anciens, ils sont liés à des angoisses, à des craintes, à des peurs. Ce sont des choses assez particulières qui transformaient complètement son caractère et son regard. En revanche, quand elle disparaît, ce qui nous reste, enfin, je suis toujours très surpris de voir le peu de choses qui restent d'une vie, le plus souvent ça tient dans une valise. Et ce qui reste, des petites choses insignifiantes, un petit coquillage, une petite photo abîmée, un petit collier, un anneau, enfin bon, des choses qu'on n'aurait même pas regardées en temps normal, qui se mettent à rayonner comme ça, comme de petits soleils. Et on se rend compte que ces objets balisent une présence assez paradoxale. Quelqu'un a disparu et en même temps, elle commence à se répandre partout, elle imprègne tout l'environnement et puis elle est pratiquement scintillante dans tous les objets qui restent. Ce qui fait qu'on se met un peu comme le petit pousset à rechercher ces petits objets, à les ramener auprès de soi et à chercher où elle est. Et en cherchant, on trouve tous les silences, toutes les absences qui constituent non seulement soi-même, mais qui constituent le pays auquel on appartient et puis finalement qui constituent ce qui a déterminé l'espèce humaine.
Donc c'est un roman autobiographique, Patrick Chamoiseau.
C'est un roman, je dirais que c'est un roman initiatique. Parce que c'est vrai que dans une autobiographie, on a des moments importants. Et c'est vrai aussi que nous, individus là, du 21e siècle, nous sommes un peu laïcisés, nous sommes un peu désenchantés, nous avons une sorte de dévotion à la raison, nous avons une approche rationnelle des choses, et nous avons perdu un peu de spiritualité ou de mysticisme qui pouvait nous donner une vision un peu particulière du monde. Mais lorsque quelqu'un mourait, la communauté ancienne qui nous entourait avec un corset symbolique nous accompagnait dans ce choc qui est toujours assez insupportable. Mais aujourd'hui, nous sommes seuls. Lorsque la mort survient, la mort de quelqu'un qu'on aime, la mort déterminante, la mort majeure, ça peut être une mère, mais ça peut être un frère, ça peut être un fils, ça peut être n'importe qui. Lorsque la mort importante survient, on est complètement seul. Et là, je m'aperçois que malgré notre laïcisation, entre guillemets, notre désenchantement, nous avons besoin de ces moments qui sont des moments où on meurt à soi-même et on renaît. Donc nous pratiquons, à chaque mort majeure, nous pratiquons une sorte d'auto-initiation, quelque chose qui nous permet de mourir là où on est mort et de renaître là où il faut renaître.
Mais pour en revenir à la construction aussi du roman, cette conversation sur la tombe, presque ces mémoires familiales d'outre-tombe, est-ce qu'elle a vraiment eu lieu, cette conversation?
Oui, oui, au mois de novembre avec ma grande sœur, la baronne, c'est elle qui organise ça. Nous allons sur la tombe. Hein. Les Antillais, au mois de novembre, ils vont sur les tombes, ils fleurissent les tombes. Enfin, il y a un culte des morts qui est encore assez vivace. Donc je vais avec elle le matin et on nettoie la tombe, on amène des fleurs et puis on parle de tout, de rien, on parle d'elle. Enfin, bon, et ça m'a paru intéressant de pouvoir à un moment faire la somme de toutes les petites conversations que nous avons eues pendant des années, puisque ça fait 10 ans, plus de 10 ans que ma mère est morte. Donc entre le moment de la mort et maintenant, on a eu beaucoup de conversations. Et c'était assez intéressant parce que La baronne est très rationnelle, alors que moi, je suis assez, je ne dirais pas que je sois mystique, mais je suis assez sensible, attentif au silence, attentif aux absences. J'accorde de l'importance à de petits objets. J'essaye de deviner dans les paysages des choses que les gens ne voient pas. Donc, j'ai une attitude beaucoup plus sensible qu'elle. Donc, ce dialogue assez surréaliste a eu lieu de manière un peu éclatée, mais ça m'a donné un petit peu la ligne de ce texte un peu particulier, à partir duquel, donc, j'explore l'instant de la mort, qui, et là, c'est une exploration poétique très, très profonde. Enfin, j'essaye de la faire la plus complète possible pour comprendre ce qui s'est passé. En plus, je remonte tous les petits objets qu'elle a laissés, qui témoignent de son absence et qui me renvoient à toutes les absences qui constituent le pays entier, l'absence de l'Afrique, l'absence des dieux, enfin bon, l'absence de la langue créole qui est minorée, enfin bon. Il y a beaucoup de pertes, de ruptures, de vides, de manques, et qui paradoxalement, et ça je m'en suis convaincu encore plus dans cette expérience initiatique, qui ont déclenché des moments de créativité absolument exceptionnels.
Parce qu'effectivement, derrière cette histoire familiale, il y a une histoire parallèle, une histoire cachée, une autre absente finalement quelque part, hein, ou un autre absent, ce peuple entier qui a souffert dans sa chair. La domination esclavagiste était aussi faite d'un invisible qui vous brisait l'esprit et qui vous amenait à intérioriser le déshumain sans rémission qui était imposé. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là?
Ah oui, c'est-à-dire que très souvent, vous savez, on va vous dire, et même Monsieur Fillon dernièrement, il disait la France n'a pas inventé l'esclavage, que l'esclavage existe depuis très longtemps avec les Arabes, que toutes les civilisations ont pratiqué l'esclavage. Mais l'esclavage de type américain, c'est le seul esclavage qui est, je dirais, installé une sorte de damnation ontologique de phénotype nègre. Le racisme apparaît avec la traite des nègres. Avant, vous verrez dans tous les textes antiques, on parle de gens noirs, etc. Même dans la chanson de Roland, vous verrez, il y a des chefs noirs, des empereurs assez formidables qui sont décrits. Mais lorsque la traite commence, il faut justifier cette ignominie. Et pour la justifier, on va inventer le nègre qui n'est pas vraiment un homme, l'Afrique qui n'est pas vraiment un lieu de civilisation. Et ça va perdurer jusqu'à aujourd'hui. Et ce qui fait que pendant l'esclavage aux Amériques, même lorsque vous étiez affranchi, vous restiez quelqu'un de seconde zone, parce que c'est la peau qui était visée. C'est pas simplement un statut juridique qu'on vous imposait et qu'on pouvait enlever, c'est véritablement votre peau qui était devenue synonyme d'infériorité, de sous-humanité et d'esclavage automatique.
Et en contraste avec la douceur de ce cocon familial, justement, dans la matière de l'absence, il y a la violence de la colonisation, la destruction d'un peuple, pour reprendre vos mots, éjecté, voué à l'anéantissement, et d'une société qui est séparée, et séparée aussi en deux cimetières, puisqu'on est hein, sur une parole d'outre-tombe. Comme ces deux cimetières, c'est comme une ligne de démarcation entre le bon et l'inutile, hein, quelque part, entre les blancs, les métis, les noirs, de l'autre côté. Votre mère est enterrée dans quel cimetière, d'ailleurs?
Ma mère est enterrée dans le cimetière de sa commune de naissance, qui est le cimetière de tous, hein. C'est pas un cimetière réservé ni au béquet ou à autre personne, c'est vraiment un cimetière populaire.
Ça, c'est terminé, cette ligne de démarcation, ou ça existe encore?
Non, c'est terminé. Bon, c'est maintenant vrai qu'il y a encore des cimetières où les béquets, les descendants de colons ont pas mal de tombes, mais aujourd'hui, bon, je pense que c'est assez... Ce qui fait la différence, c'est le marbre ou les grilles, les dorures, enfin, tout l'apparat que quelqu'un de très riche peut donner à sa tombe.
Et pourquoi avoir voulu nous glisser aussi à travers cette histoire, dans la peau, dans l'esprit d'un esclave, ce que vous faites notamment à travers le livre?
Oui,
pourquoi avoir voulu nous replonger aussi dans cette mémoire-là?
Oui, d'abord parce que c'est une des grandes catastrophes de l'humanité, hein, que l'Occident a complètement effacé de sa conscience. Et puis, il y a un autre élément qui est important, c'est que on ne peut pas comprendre la situation actuelle du monde, on ne peut pas comprendre les Amériques, on ne peut pas comprendre la situation actuelle de l'Afrique, on ne peut pas comprendre l'opulence européenne, et on ne peut pas comprendre le jazz, on ne peut pas comprendre toutes les musiques déterminantes et toutes les dynamiques culturelles qui déterminent notre conscience si on ne passe pas par ce moment où des millions d'Africains ont été éclaboussés sur toutes les îles et sur toutes les Amériques. Ce qui fait que, et c'est peut-être là ce qui est paradoxal, c'est que ce crime de la colonisation et cette horreur qu'a été l'esclavage ont pour nous été des moments fondateurs. le peuple créole américain est né dans l'esclavage. Et nous avons eu tout ce problème pendant les luttes pour la décolonisation, parce que lorsqu'un colonisé voulait se débarrasser du colonisateur, il allait chercher tout ce qui existait avant le colonisateur.
Vous dites fondateur dans le sens d'une renaissance ?
Non, c'est-à-dire que le peuple antillais naît de la conjonction qui s'est produite de manière horrible et inadmissible, mais qui s'est quand même produite entre les Amérindiens, les colons européens, les esclaves africains, les immigrants qui venaient de l'Inde, les immigrants qui venaient de l'Asie. Enfin, vous voyez, il y a vraiment une sorte de maelstrom anthropologique assez basé sur le racisme, l'exploitation, tout ce que vous pouvez imaginer, mais qui en même temps a produit de la vie, du jaillissement de vie, du jaillissement de créativité. Et ce qui était une horreur, c'est-à-dire le déshumain total, la disparition de l'humanité dans le contact qui a été opéré, cette disparition de l'humanité, cette absence majeure, a provoqué un surcroît de résistance. Et ce surcroît de résistance s'est traduit par un jaillissement culturel absolument, absolument phénoménal. D'ailleurs, la production la plus emblématique, c'est l'esprit du jazz. Le jazz, qui est une des musiques contemporaines les plus déterminantes.
Et justement, quand vous dites aussi, Patrick Chamoiseau, qu'on doit connaître cette histoire, c'est pas simplement parce qu'on doit savoir d'où on vient et connaître ce passé, mais c'est aussi pour savoir où on va. Et ce qui est intéressant, c'est que tout votre roman, comme un bateau qui tangue entre deux rives, et autour de cette question et de la mémoire et de l'oubli. Qu'est-ce qu'on devrait se souvenir, de quoi devrait-on se souvenir, pardon, et qu'est-ce qu'on peut peut-être laisser passer dans l'oubli?
Oui, c'est ça qui est assez extraordinaire, parce que dans les cultures habituelles, la mémoire servait à reproduire le même. Les communautés visaient à leur perpétuation, donc on transmettait presque une mémoire immobile. Et nous, dans la situation dans laquelle nous sommes, nous individus qui devons fonder nous-mêmes notre éthique et nous réaliser en tant que personne, la mémoire dont nous avons besoin, c'est celle qui nous permet d'affronter la complexité et surtout d'affronter ce qui est terrible et que l'on découvre dans la mort lorsqu'on est confronté à une mort déterminante, de se confronter à l'impensable. Et ça, c'est absolument terrible. C'est-à-dire, aujourd'hui, lorsqu'on éduque un enfant, on ne peut pas savoir à quelle société on l'éduque. On ne sait pas ce que sera la France dans les 20 ans qui viennent, ni ce que sera les situations des grandes villes dans les 20-30 ans qui viennent. Il y a une telle accélération technologique, il y a une telle fluidité des effets et des contre-effets que nous avançons dans l'inconnu. Et cet inconnu-là demande un imaginaire particulier qui est la capacité de se tenir en face de l'impensable. Ce qui fait que la mort de ma mère a fait surgir brusquement dans ma vie un inconcevable, un impensable, mais la mort avait déjà fait survenir un inconcevable dans l'esprit de Sapiens, ce qui avait provoqué toutes les créativités des cultures, de civilisations, de la religion, de la philosophie, de la connaissance, etc. Et chaque fois que l'inconcevable apparaît, chaque fois que notre esprit est confronté à un impensable, il y a un surcroît de créativité et je dirais d'humanisation. Et aujourd'hui, nous sommes en face d'un impensable. Personne ne comprend exactement ce qu'est le cosmos et nous ne savons pas du tout vers quoi nous allons. Donc nous sommes dans une période de refondation et cette refondation demande un imaginaire de la relation.
Et quand votre mère décède, écrivez-vous, une bonne part de nous avait basculé hors de l'espace et du temps. Ce décès vous a plongé quelque part dans une autre temporalité. Quel rapport vous entretenez aujourd'hui, vous, Patrick Chamoiseau, au temps qui passe ?
Le rapport de tout être humain. C'est vrai que je vieillis et qu'on dit que lorsqu'on vieillit, le temps passe beaucoup plus vite. Et ce qui fait que aujourd'hui, la temporalité qui est la mienne est plus une temporalité qui est très très largement liée à une perception de l'instant. La mort de ma mère a été un moment d'initiation. L'initiation a consisté à récupérer l'instant de l'annonce, récupérer le moment où elle disparaît et toute cette période qui se crée autour d'elle. Et ce qui est particulier, c'est que l'être humain a du mal à vivre pleinement l'instant. L'instant nous échappe toujours d'une manière ou d'une autre. Et le moment de sa mort nous avait échappé parce que nous étions stupéfiés, nous étions terrifiés, nous étions dans tous les états émotionnels possibles. Et ce travail poétique de récupération de l'instant m'a initié d'une certaine manière à mieux vivre chaque seconde de ma vie.
France Culture, midi 20, le temps d'un instant. Nous sommes avec Patrick Chamoiseau jusqu'à midi et demi. Là, on n'est pas sur de la musique antillaise, on est avec un groupe français de pop psychédélique, Forever Pavot, c'est de l'or, c'est le titre du titre qu'on vient d'écouter, et ils seront dimanche 18 septembre au Trabendo à la Villette, parce que ce week-end va se tenir la première édition de Smile, le Vegan Pop Festival qui se tiendra donc au parc de la Villette à Paris à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche soir, avec au programme des concerts, des conférences, des ateliers, des projections, et puis on va beaucoup y parler de véganisme, cette philosophie, ce mode de vie qui cherche à n'exclure personne et à inclure notamment ou à exclure toutes les formes d'exploitation des animaux. Voilà, c'est une première et ça se tiendra ce week-end à Paris.
France Culture, la grande table, Olivia Jesbert.
Patrick Chamoiseau, la grappe dans la famille Chamoiseau, la grappe c'est quoi? C'est cette fratrie en fait, c'est tous ceux qui vous entourent.
Oui, oui, c'est-à-dire que c'est toute ma famille, mes frères et sœurs. En grandissant, on avait quitté le domicile maternel et on menait notre vie. Donc il y a un certain éloignement qui se produit, même si on se voit de manière régulière. Mais lorsque la mère est morte, on s'est retrouvés dans une espèce de fusion enfantine. Donc on a reconstitué quelque chose qui s'était perdu et que nous connaissions quand on était enfant, on était les enfants de Moninotte. Donc, et ça m'a frappé de voir cette proximité qui s'était immédiatement reconstituée. Et lorsqu'on explore l'histoire de l'espèce humaine, on retrouve le même mécanisme de la grappe, c'est-à-dire que les premiers Homo sapiens ont très vite remarqué que pour survivre, il fallait s'agglutiner. Donc les premiers groupes humains, avant même que les clans, les tribus ne s'organisent et qu'il y ait des chefs, etc., il y a eu des agglutinations comme ça d'individus, de personnalités qui fonctionnaient dans une relative fusion pour agir et survivre. Et l'autre élément qui m'a frappé, c'est que lorsque je regarde l'histoire antillaise, les esclaves qui voulaient échapper à la domination des planteurs, lorsqu'ils partaient dans les forêts martiniquaises qui sont assez réduites, donc on ne peut pas créer de villages, on ne peut pas créer de grosses communautés, eh bien ils fonctionnaient par grappe. La grappe est très mobile, elle est très rapide, elle est fusionnelle, mais elle est presque invisible parce qu'elle est d'une très très grande agilité. Donc le phénomène de la grappe est partout. Un autre exemple, dans la cale des bateaux négriers, les négriers mélangeaient les ethnies pour que les esclaves ne puissent pas trouver une entente et provoquer une révolte. Et malgré ça, des individus arrivaient à faire grappe et à provoquer une agression et parfois à s'emparer du bateau. Donc ce phénomène est très très humain et je me rends compte que en face d'une mort déterminante, on reproduit presque tout de grandes attitudes ou de grands réflexes qui existent dans l'espèce, mais aussi qui existent dans la plupart des communautés culturelles.
Après avoir cherché à s'en détacher, parce que ce phénomène de la grappe que vous racontez est justement paradoxal, vous l'écrivez, au fil de nos âges, nous avons passé beaucoup de temps à lutter contre cette indistinction qu'implique la grappe, hein, le fait d'être tous réunis, unis dans un une même grappe de raisin quelque part, et de ne plus avoir cette distinction, y compris au sein de la cellule familiale. Il y a cette envie à un moment de s'en émanciper, de s'individualiser. Juste un mot sur cette figure centrale de votre livre, votre mère donc. Notre famille était d'essence matriarcale, écrivez-vous. L'autorité décisive était celle de Maninotte. Le papa constituait une sorte d'anneau stellaire semi-loin qui tenait le guet aux frontières extérieures. Comment expliquez-vous que ce soit votre mère qui ait tenu toute cette place centrale? Votre père était du coup quoi, inexistant, peu existant? Il avait un rôle moins important dans cette famille?
C'est-à-dire qu'il faudrait, là, il faudrait des psychologues. En tout cas, on a beaucoup étudié les familles qui sont nées de l'esclavage. La plantation esclavagiste ne reconnaissait pas, je dirais, d'autorité paternelle à l'esclave, puisque la place symbolique de l'autorité était occupée par le maître. Donc le père symbolique, du coup, devenait le maître blanc qui régnait sur son troupeau d'esclaves. Et les femmes étaient organisées autour des enfants. Donc on avait le clan des femmes et des enfants, avec le maître qui peut intervenir auprès de la femme et auprès des enfants, vendre l'enfant, vendre la femme, enfin, c'est vraiment l'autorité centrale. Du coup, il n'y a plus de place pour une autre autorité et le père s'est retrouvé comme ça, rejeté en périphérie de l'organisation matrifocale qui s'était constituée. Et ça a perduré. Une famille antillaise est très souvent une famille où la mère est au centre, les enfants sont autour, les femmes sont avec elle et le père reste quelque chose de périphérique, qui peut être important mais qui n'a pas la même importance que la mère. Alors, d'apparence, ma famille était nucléaire, mon père était tout le temps là, mais il n'intervenait pas dans les décisions, il n'intervenait pas dans la vie quotidienne et il n'intervenait pas, je dirais, dans la régulation qui était faite au quotidien. Ceci étant, il participait de l'éducation.
Il y avait donc dans cette famille la mère, il y avait le père, donc le papa, les sœurs, la baronne, hein, comme vous l'appelez aussi dans le roman, et Marielle, la championne de basket. Et puis il y avait trois garçons, Paul Levaux, Jojo l'algébrique et puis le négrillon, c'est-à-dire vous, ou en tout cas le narrateur de ce livre. Et puis vous écrivez aussi que malgré le souvenir des pauvreté rétrospectivement, et c'est dans tout ce travail de mémoire qu'on peut retrouver dans votre roman, si vous n'étiez pas triste, on sent bien que vous avez eu quand même quelque part une enfance heureuse, on pourrait le dire aujourd'hui. Je voudrais terminer avec vous, Patrick Chamoiseau, sur cette journée qui nous occupe, vous savez, une journée spéciale où on s'interroge sur la France et la place des intellectuels en France. Est-ce que pour vous, Patrick Chamoiseau, la France est toujours la patrie des intellectuels?
Ah oui, oui, moi je crois largement. Il y a beaucoup d'esprit absolument brillant. Hier soir, j'étais avec Edgar Morin, que je considère comme un des penseurs les plus fins, non seulement du monde actuel, mais de toutes les perspectives qui vont s'ouvrir dans les 50 ans qui viennent.
Mais il y a du glissant, il y a du Césaire en vous, on l'a entendu depuis le début de notre rencontre. Est-ce que on voit que les intellectuels d'hier étaient quand même des écrivains, des poètes? Est-ce que pour vous, aujourd'hui, l'écrivain, quand il décide de se saisir des enjeux du moment, est dans son rôle et finalement dans un rôle d'intellectuel?
Moi, je me considère plus comme un artiste, hein. Je ne suis pas un intellectuel, mais c'est tout ce que j'écris jusqu'à maintenant, c'est un peu mon expérience personnelle d'individu précipité sur une grande scène qui est la scène du monde. Et ce que je porte, ce ne sont pas des analyses, ce ne sont pas des vérités, ce ne sont pas des concepts, c'est véritablement le témoignage d'une conscience particulière, d'une expérience de vie qui essaie tant bien que mal de se tenir en face de l'impensable. Parce qu'il me semble que l'objet le plus déterminant, non seulement de la pensée, mais aussi de l'acte créateur, c'est de pouvoir envisager l'impensable.
Conscience que vous transcrivez dans vos romans, mais également dans un blog que vous tenez sur Mediapart, où vous réagissez sans détour et à vif, souvent, sur les questions les plus préoccupantes du moment, des attentats au sort des migrants, Lampedusa, ce que nous disent les gouffres, avez-vous écrit, de Nuit debout, cette répétition de l'histoire, à Donald Trump, ce mensonge. Merci beaucoup, Patrick Chamoiseau, d'avoir passé ce moment avec nous. La matière de l'absence vient de paraître au seuil.
Merci
mille fois.